Is this your first time on Audio Smut?
Audio Smut is like ice cream on your stomach on a hot day. Audio Smut is like having sex in a boxing ring.
Rough and ready.
We're going to talk with sex workers. We're going to talk with queer folks. We're going to talk with trans folks. We're going to talk with people who make comics, people who write books, people who need to talk about sex and can't.
Audio Smut
sexologists.
Is creative sexuality, weird sexuality.
What turns you on? Education, politics, culture. We've got it all.
That was amazing. When I have sex, I think about radio. When I have radio, I think about sex.
Audio Smut has already interviewed Annie Sprinkle, Tom Waugh, Suicide Girls, your best friend, your neighbor.
Audio Smut airs on CKUT 90.3 the first Wednesday of every month from 6 to 7 p.m. Tune in and get off.
Yes.
Oh, I find grace in the simple.
Sheltered by a face, she wanders through streets of anguish. In a mysterious body, hardly a home. She sways about in memory, lost but not forgotten. Untouched but still moving, each day a passing life sentence. Squalor women, squalor meaning. There were butterfly ashes, silt and sewn to the perimeter, molten and woven on a loom of light. Moon glow only rescued some, glassy lake hangs low, slowly seeping into passing dreams, extending arms with each exhale, a grassy hill. Reservation, preservation, paradise for those in flight. For muses, floating on air, sheltered by little more than the wind. Now we walk, unstitching the patch butterfly graves as we sing, extending arms low to collect amber molten pollen on our fingers. Rigor metamortis of butterfly, crisp yet soft, vulnerable residue wipes away in palm. Ashes of lost souls, drifting and absent in the abyss. Most minds too content to question, to mention the missing. On the highway of tears, missing mother, missing woman, missing sister. Words break down over time, a poison metamorphosis. Symbols fall limp on hardened tongues, stitched to my raw sides, coarse wire words rip at my diaphragm. Choking, I try to speak over these sores. Choking, I try to breathe voice into mute syllables. Missing woman, media outlines her story in darkened tones.
At risk, prostitute, homeless, addicted, abandoned, abused, abducted.
Aboriginal woman. She was Keeg Squaw, new to this game, indigo virgin wept at first moon in the season of ripe cherries. She was Segu Squaw, widowed mother, her beaded shield cast over full bosom to shelter her saddened eyes. She was Menegeba Squaw, woman of the woods, collected berries in an ice cream pail to feed her children. Gone. Red flesh hunted, gathered. Red flesh hunted, gathered. Red flesh hunted, gathered. Now frozen memories. by name, voice by voice. Get them back.
Allô, allô! Donc, vous écoutez Sécurité au 93 FM et nous sommes Audiosmut. Nous sommes Audiosmut, vous venez tout juste d'entendre la chanson Butterfly Ashes de Mo Clark. Pour vous, aujourd'hui, on vous fait une émission qu'on a décidé d'appeler le flow de créativité printanier ou Spring Creative Flow. Bonjour!
Tout commence avec Mossan. Tout commence avec son choix. À la fin des événements que je vais te raconter devant le cimetière sous le manguier, j'avais reposé ma question à Mossan. Elle s'était depuis longtemps enfoncée dans un monde de solitude et d'ombre et de silence. Mais je lui avais tout de même reposé mon éternelle question. Pourquoi lui? Ce jour-là, une fois de plus, j'avais parlé sans espoir de réponse. Ça faisait bien longtemps que je n'adressais plus seulement cette question à Mossam. Elle était aussi destinée à Dieu. Mais par-dessus tout, elle m'était destinée. Chaque homme sur Terre doit découvrir sa question, Marem Siga. Je ne vois pas d'autre but à notre présence ici. Chacun de nous doit trouver sa question. Pourquoi? Obtenir une réponse qui lui dévoilerait le sens de sa vie? Non. Le sens de la vie ne se dévoile qu'à la fin. On ne cherche pas sa question pour trouver le sens de sa vie. On la cherche pour faire face au silence d'une pure et intraitable question. Une question qui ne posséderait aucune réponse. Une question dont le seul but serait de rappeler à celui qui la pose la part d'énigme que sa vie porte. Chaque être doit chercher sa question pour toucher du doigt l'épais mystère au cœur de son destin. Ce qui ne lui sera jamais expliqué, mais qui occupera pourtant dans sa vie une place fondamentale. Des hommes meurent sans avoir trouvé leur question. D'autres l'identifient tard dans le cours de leur vie. Moi, j'ai eu la chance et la malédiction de trouver assez jeune la forme de ma question. Délivrée pour le reste de mes jours de l'angoisse de la chercher, je me suis en même temps chargée d'une autre angoisse. Être hantée à jamais par le silence ouvert devant mon interrogation. Mais ce silence n'est pas un vide. Il est toujours peuplé par le tumulte des hypothèses infinies, des réponses possibles et des doutes immédiats qui lui sont attachés. Pourquoi lui? Alors, l'extrait que je viens de lire, ça vient du livre « La plus secrète mémoire des hommes », qui est un chef-d'œuvre monumental de l'artiste sénégalais, mais basé en France, Mohamed Mbougar Sarr. Puis, c'est un texte que j'ai choisi en réponse à la question de Palina sur la créativité. Parce que pour moi, la créativité, en ce moment, ça... Un peu pour citer une de mes mentors, Manon, qui travaille dans les arts numériques, qui dit que l'art doit répondre à l'urgence. Qu'est-ce qui est urgent? Puis en ce moment, on dirait que la créativité, pour moi, c'est un peu ça, essayer de répondre à des questions, mais d'abord chercher sa question.
Et merci pour le partage. Je ne connaissais pas l'auteur. J'ai envie de lire maintenant. Puis, vous l'aurez deviné, on parle de créativité, mais j'ai envie de questionner la créativité. J'ai envie de me re-questionner à travers la créativité. Donc, on a aujourd'hui minuit, puis Palina ensemble. Je pense que c'est notre premier show en live, juste toutes les deux ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un moment fun, je pense. J'aime ça aussi de... Je pense... parcourir ma créativité en direct avec toi, nos textes intermélangés dans nos réflexions, parce que je sais qu'on est deux êtres qui écrivent beaucoup, mm-hmm. qui réfléchissent beaucoup, puis ouais, je pense que ça va être plaisant. oui, Qu'est-ce qui... c'est quoi ton être créatif, tu penses? Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment?
Ben, c'est un peu ça. En ce moment, j'ai l'impression que ce qui m'inspire, c'est un peu associé à... Un peu associé à des obsessions, à des questions, à des quêtes de sens, à des vides que j'ai envie de remplir. Tu sais, c'est un peu comme une force qui me propulse de l'avant. C'est une façon pour moi d'exprimer des choses que, dont j'ai pas de mots. Puis il y a une partie de moi qui aimerait avoir une créativité... j'ai l'impression qu'il y a quelques années, ma créativité était beaucoup dans le fait de bâtir des mondes. C'est quelque chose qui me fascine, t'es, surtout dans le deuil que je vis par rapport à nos cultures super individualisantes, le deuil du village que j'aurais pas connu. Ça a été beaucoup ça qui a porté mon processus et qui le porte encore. Mais en ce moment, c'est ça, je me sens beaucoup habitée par la quête autour du deuil, de la mort, du décès. Puis c'est dur pour moi de me sentir connectée au printemps, t'sais, à la vie qui pousse, à l'énergie, de la créativité. Mais en même temps, je pense que ce à quoi je m'associe dans cette sève bouillonnante qui revient à la vie, c'est un peu comme l'urgence de comprendre, l'urgence de trouver ces questions-là. Donc, ma créativité, elle se porte beaucoup en ce moment à tout ce qui a rapport à... au deuil. Puis je pense que parfois, je trouve que c'est un peu comme je te disais tantôt, j'ai l'impression que c'est un peu, bon, un peu lourd. Je sais pas si j'ai envie de me peindre dans un coin de mur comme l'artiste qui parle juste de mort tout le temps, puis... ou qui se donne en spectacle à cause des événements qu'il vit. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est d'autre que des amoncellements de chair qui vivent des émotions puis qui cherchent des manières de les transmettre, de les exprimer. Puis on dirait que c'est ça, en fait, que l'univers a envie de transmettre à travers moi en ce moment. Puis donc, c'est un peu comme ça qui m'habite.
Oui. Mais je pense que ce qui vient beaucoup me chercher, c'est obsession. J'ai l'impression que pour moi, la créativité, c'est vraiment ce qui est le plus authentique, vulnérable à l'intérieur de moi. Puis c'est là que ça s'ouvre, puis ça écrit, puis ça, ça, ça fait vraiment un flow naturel. Mais c'est souvent dans les moments où... ouais, la vulnérabilité, donc il y a beaucoup de tristesse, puis mais où je pense que je suis en apaisement avec cette tristesse ou en questionnement, puis que je suis prête, c'est pas juste un tourbillon sombre, puis que je suis prête à le transcrire, puis je suis prête à le transposer de ma voix à d'autres esprits, tu sais. Fait que j'ai pas l'impression que c'est, peu importe le sujet qu'on prend, tout sujet est vie aussi, là, tu sais. Puis j'ai pas l'impression que... Moi, ça me fait du bien de parler de choses qu'on dit tout le temps négatives, mais on dirait que c'est pas... j'en parle en y mettant de la lumière, justement. J'ai envie de les faire briller, ces thématiques-là, parce que c'est ce qui m'habite, puis je reste en vie, puis j'ai envie de rester en vie à travers ces sujets-là. On dirait que c'est un peu ça.
Oui, puis ce qui résonne pour moi quand je t'entends parler de cette créativité-là, c'est d'avoir envie de pas planter des fleurs dans la blessure. Puis en même temps, je réfléchis beaucoup à ça, tu sais, de... Je pense, moi aussi, que c'est quelque chose qui fait du sens pour moi de travailler une matière jusqu'à ce qu'elle soit assez solide pour être partagée, parce que reste que l'acte créateur, c'est extrêmement vulnérable, puis que déjà le partager, c'est un risque. Je pense qu'il faut faire attention à notre énergie puis à notre santé mentale quand on partage. Choisir le bon moment où est-ce qu'on est prêt à partager, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en processus créatif dès le moment que ça bouillonne en nous. Puis il y a une partie de moi qui pense que l'art, c'est un acte extrêmement guérissant, puis donc qui a envie d'inviter le fait de parfois travailler directement avec la blessure, mais je résonne avec le fait d'aller dans ces zones d'ombre-là, puis moi, j'ai envie de travailler là-dessus avec la lumière, puis je sens que moi, ça m'accompagne beaucoup dans mon propre processus de deuil, parce que je vois autour de moi d'autres personnes qui garde ce... Je sais pas comment l'appeler, là, mais cette sorte de marée noire là, à l'intérieur de toi, sans le partager. Puis, tu sais, il y a aucune bonne façon de vivre des deuils importants. Là. On y va selon nos capacités, mais je sens qu'il y a quelque chose de transformateur, d'être capable de le mettre à l'extérieur de soi, tu sais. Même si c'est pas guéri, même si c'est pas parfait.
Puis ça m'amène quand même à penser que tu as un show qui s'en vient prochainement, qui sont dans cette thématique-là. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu, nous inviter?
Oui, bien j'aimerais ça vous inviter à ce spectacle-là qui va être samedi prochain, le 6 mai, au Studio Tango. Donc c'est sur Saint-Laurent, coin de Jarry, au deuxième étage. Puis ça s'appelle « Soulever le voile », chanson pour les vivants et leurs défunts. Puis c'est un spectacle qui vise à honorer, commémorer le passage de un an du décès de mon père, mais qui vise pas juste à créer de l'espace pour lui. Je pense que ce qui m'a... Un des vides ou un des absences qui m'a le plus marqué, c'est l'absence d'espace communautaire pour vivre, parler d'eux. Puis moi, j'avais envie d'utiliser ce moment-là pour m'étendre à l'extérieur de moi du noyau familial pour créer des espaces collectifs où est-ce qu'on peut vivre, amener nos deuils. Il va y avoir un petit hôtel où est-ce que les gens vont être invités à déposer des petits objets. Puis il va y avoir surtout beaucoup de groupes de musique, des histoires, des contes, des chants polyphoniques. Moi, je vais jouer avec des amis. On va faire de la musique folk, punk, rock. Puis je vais même chanter une chanson en hommage à mon père. Donc, je pense que ça va être un moment spécial. Puis c'est vraiment un acte créateur dans le sens de vouloir prendre le monde dans lequel on est puis de le transformer radicalement. Je pense que pour vraiment pleinement plonger dans la vie, c'est important de ramener avec nous la présence aux morts. Puis j'ai l'impression qu'en jetant tout ce qui était de la religion, on a aussi rejeté tout ce qui était de... Je sais pas, du rapport à ce qui se passe après la mort, au décès, au deuil. On n'a plus beaucoup de rites pour les encadrer, puis pour nous mettre en connexion avec ce qui est au-delà de nous, au-delà de ce qui est matériel, tu sais, avec... Oui. Puis j'avais un deuxième petit texte, justement, qui allait ensuite avec le texte que j'ai amené de la mémoire des hommes qui parle, c'est un autre livre qui, lui, est écrit par Stéphane Alix, un journaliste qui s'est beaucoup interrogé à qu'est-ce qui se passe après la mort. Puis ce qui me touchait dans l'analogie entre ces deux textes-là, c'est la question. Puis moi qui ai un passé en recherche, là, comme je pense que ce que j'aime dans la créativité, c'est ça, c'est la fin de répondre à une question qu'il faut que tu répondes. Donc le texte va comme suit. C'est dans un livre qui s'appelle « La mort n'est pas une terre étrangère ». Mon jeune frère est mort à 30 ans, devant mes yeux. Son décès cristallisa la question de la mort au cœur de ma vie. Et tous les autres sujets devinrent futiles. Comment continuer à vivre dans l'insouciance alors que l'on réalise que l'on n'est pas immortel? Comment continuer à se regarder dans une glace si l'on n'affronte pas cette question avec toute la puissance dont la vie qui se débat en nous est capable? Avec intuition, cet outil de connaissance si particulier dont chaque être humain est porteur. La mort de mon frère rend toute fuite impossible. Je ne peux pas me dérober. Je ne veux pas. Il faut que je sache, que j'obtienne des réponses. Qu'est-il arrivé à mon frère Thomas à l'instant de sa mort? Et que s'est-il réellement passé ce jour-là au fond de moi, lorsque j'en ai été le témoin, et dans le cœur de nos proches? Où est-il aujourd'hui? Est-il d'ailleurs possible de répondre à cette question? Avec appréhension, mais également une grande clarté d'esprit, j'ai appris de la mort. Je suis parti de l'horreur et de la colère et j'ai atteint une forme d'apaisement. Ce que j'ai découvert tout au long de cette recherche a modifié en profondeur la personne que je suis, ainsi que le regard que je porte sur la vie. Parce qu'en fait, c'est de la vie que nous n'avons pas cessé de parler depuis les premières pages de ce livre. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce texte-là, c'est qu'en ce moment, on dirait que je me sens encore dans la recherche de la question qui essaye de me propulser vers la vie. Puis je me sens un peu entre les deux. Puis ça, c'est un acte créatif en soi, je pense.
Mm-hmm. Oui, absolument. On est sur CKUT, vous écoutez Audio Smut, puis on va retourner en musique. On vous revient juste après avec d'autres textes encore et des réflexions.
quand vous écoutez CKUT au 90.3 FM. Vous êtes avec Odious Mott et on vous présente l'émission de créativité printanière. Le 22 avril 2023. Ma langue maternelle. À toutes vous. Quand j'ai dit « je t'aime », c'était vrai, c'était profond, et c'était pour le reste de mes jours. Après, je ne l'ai pas donné facile. M'aimer. Mais c'est vrai, vous auriez pu être ma personne. Mais en amour, c'est comme si je donnais pas d'espace à l'erreur. Comme si j'en avais pas cet espace. Pour que tu apprennes avec moi, apprendre à m'aimer, apprendre à aimer. Je n'ai pas d'espace pour éduquer. Peut-être que moi-même, je ne savais pas que... Je savais pas que j'avais un mode d'emploi. Que je savais pas qu'il fallait que je l'explique. À ceux que j'ai dit « je t'aime, enfant », je le pensais. J'aimais. J'aimais pour le reste de ma vie. Est-ce que je savais que j'aimais? Est-ce que je savais que c'était aussi profond? Est-ce que je comprenais que c'était long comme une vie? Je pense pas. Mais je me rappelle de vous. Je vous ai vraiment aimé. Puis il y a celle que j'aimais. Plus fort que tout. Ça, c'était dur à comprendre. Ça faisait mal parce que c'était pas censé à l'époque. Je savais définitivement pas ce qu'on faisait. Je savais définitivement pas que je vous aimais si fort. Mais on avait le droit parce que c'était comme si. Est-ce que je savais que c'était autrement? Je pense pas. Aimer, c'était facile, c'est la rupture qui était complexe, la séparation. Mes premières peines d'amour sans savoir que j'étais en amour. Puis il y a ceux que je me faisais accroire que j'aimais. Le rite de passage, parce que moi aussi je voulais. J'avais probablement juste du plaisir, parce que entre sensualité et amour, le sentiment est pas très loin. Mais j'ai eu mal. Je ne crois pas que j'ai eu mal d'amour. Mais d'orgueil, d'abandon, mal d'échouer. Puis après, il y a ceux que je le savais pas. Je le savais pas que je vous aimais, je le savais pas comment le dire, je savais pas c'était quoi. Ça faisait du bien. Je voulais pas les perdre, mais les mots, le mot était douloureux, irréaliste, incompréhensible. J'aurais probablement pu, mais j'avais peur. Je n'y croyais pas, ou simplement je ne savais pas. Il y a ceux que j'aurais aimé pour toujours, mais que la vie en a décidé autrement. Qu'on m'a arraché avant que j'abandonne. Auxquels je m'étais abandonnée, probablement parce que je savais à l'intérieur de moi que ça serait pas pour la vie. Ceux-là, on a arraché une partie de mon cœur, une partie de moi, quand ils sont partis. Un trou à combler en amour éternel à donner. Simplement parce que ça ne s'est jamais fini. Ceux et celles qui ont défini l'être polyamour que je suis, parce qu'à tout jamais, l'amour sera pour eux. Et il y a vous. Vous que je n'ai pas su vous expliquer, mais à qui je n'ai jamais menti. C'était vrai, c'était pour la vie. Absurdité de nommer la véracité d'un sentiment dit pour la vie au passé. C'était pour la vie. Mais vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Vous n'aviez pas toutes les explications, tout le portrait, parce que moi-même, je ne savais pas. Je suis désolée aujourd'hui de la tournure. Est-ce que j'aurais dû vous dire, vous éloigner? Je ne sais pas. Je ne regrette rien, car j'ai aimé jusqu'à l'épuisement de la dernière goutte. Je n'ai pas menti. Ça aurait pu être pour toujours. Vous m'avez donné des morceaux de puzzle que je n'avais pas. Comme à chaque niveau passé, le remords arrive seulement après coup. Je suis désolée, mais en même temps, c'était le courant des choses. Il fallait passer à travers pour poser les questions dont les réponses arrivaient seulement si on y mettait fin. Est-ce qu'on aurait pu trouver ensemble? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on posait les bonnes questions. Nous n'avions pas la clé. Nous n'avions pas les mêmes traductions à ces mots que nous utilisions. Tu ne m'entendais pas et je ne t'entendais pas. Nous aurions pu apprendre la langue de chacun, mais jamais cela aurait été notre langue maternelle, notre langue corporelle, notre langue naturelle, la langue d'amour que ma mère m'a apprise. Les jours où la fatigue de traduire m'éprend, le jour où l'amnésie s'éprend de moi, le jour où la démence s'apprend de mon corps, ma langue reviendra et nous reviendrons étrangers, rois du silence, à une même relation. Du bruit sans mots, et que du bruit. L'on finira par revenir au moment où tu ne m'entends plus et je ne t'entends plus. J'avais besoin d'une personne qui m'entend, sans que j'aie à crier. Tu avais besoin d'une personne qui t'entend, sans que tu aies à crier. Ma langue maternelle, le 22 avril 2023. Donc, moi, ce qui m'inspire en ce moment, je pense que c'est l'amour beaucoup. Souvent, on parle d'amour avec de la brillance dans les yeux, de cœur, d'émotion qu'on papillonne et tout ça. Puis moi, on dirait que ça m'inspire un grand vide que j'ai besoin de remplir. Le 22 avril 2023, ça fait pas très longtemps. Puis j'ai comme eu... ça fait très longtemps que je me demande si je comprends... C'est aussi bête que ça, parce que j'ai l'impression qu'on explique ça à un enfant. Mais si je comprends concrètement c'est quoi l'amour et c'est comment qu'on aime, mais surtout comment moi j'aime. Est-ce que je le sais? Est-ce que je suis capable de l'expliquer? Puis est-ce que c'est ça qui peut rendre compliqué les relations, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut pour... bien délimiter nos limites. Puis, ouais, je me re-questionne pour voir sont mes patterns un peu. Puis, ça faisait très longtemps que j'avais pas écrit. Puis, c'est comme si tout d'un coup, j'ai réussi à, dans ce texte-là, à retracer mes amours d'enfance, à mes amours quand on est enfant, des amours interdits avec, qu'on dit des amours de l'homosexualité, mais tu sais, on dit pas ce mot-là quand on est jeune, mais on s'en rend pas compte. Je pense que c'est des années plus tard qu'on réalise que nos premières grandes veines d'amour, ben, c'est avec des personnes du même genre que moi, puis c'était quand j'étais jeune, puis que je savais pas. Puis j'ai retracé après d'autres relations, que est-ce que c'était vraiment de l'amour ou c'était juste de la sensualité? Puis oui, je pense un peu comme toi, ça devient une obsession sur l'amour. C'est pas joyeux. Mais j'ai envie d'y aller, tu sais. Puis c'est aussi très personnel. Mais j'ai l'impression que le personnel est aussi collectif. Ouais.
Oui, vraiment. Je pense que tu touches quelque chose de... ben, de vrai. Je pense que quand on est capable de se risquer à ouvrir ces portes-là qui parlent de ce qui crie, de ce qui est important, de ce qui est vraiment unique puis personnel à nous, j'ai l'impression que c'est à ces moments-là qu'on est le plus authentique, puis donc on est le plus capable de rejoindre ou de toucher les autres, tu sais. Quand on parle d'une émotion qui est réelle, d'une question qui est réelle, d'une obsession qui nous habite, plutôt que d'essayer d'être... de créer sur qu'est-ce qu'on pense qui sont des sujets dignes de... je sais pas, d'inspirer notre plume, par exemple, t'sais. Quand on réfléchit avec notre tête, comme la créativité, c'est vraiment par rapport à qu'est-ce qui habite dans notre cœur.
Mm-hmm. Mm. Oui, j'ai entendu une fois qu'on disait que l'art, les artistes, c'était un peu comme l'inconscient de la société, puis j'étais comme « Ah, c'est intense », mais après, je comprends, parce que c'est toutes nos réflexions très personnelles, très humaines, authentique, vulnérable, qu'on amène au grand jour, puis on n'est tellement pas les seules personnes à vivre ça et à se questionner. Puis à travers nos textes, bien, nous-mêmes, on est amenés à réfléchir. Tu sais, tu as lu tes textes, c'est pas les mêmes textes que moi, mais moi-même, ça m'a inspirée. Oui.
Oui, puis je pense que ça l'évoque, la question de la différence entre ce qui est personnel puis ce qui est propre au commun. Puis ce que ça m'évoque, c'est... Pour moi, pour avoir un jet qui est vraiment créatif puis qui est vraiment authentique, ça suppose ou ça présuppose une certaine discipline, une certaine pratique. Un peu comme quand on dit ton premier jet, il va jamais être personnel. Ton premier jet, il va jamais être authentique. C'est... J'ai l'impression, après ça, bon, il n'y a aucune règle là, en or, là, il y a une généralisation, là, j'en ai aucune idée, personne... C'est rien, là, sauf que le premier trait, le premier dessin, la première esquisse de ce que tu écris, au final, c'est un peu beaucoup ce que tu entends, les médias, les idées, les pensées. Puis plus tu creuses, plus tu finis par trouver vraiment ce que tu as envie de dire. Puis je pense que c'est ça, c'est que tu finis par arrêter de chercher à faire quelque chose qui plaît, puis tu finis par juste vraiment dire, à laisser sortir qu'est-ce qui habite à l'intérieur.
Ouais. Ouais, je pense que ça me parle beaucoup, puis c'est autant que ça apparaît simple, autant que c'est compliqué de justement aller dans ce vrai-là.
Puis qu'est-ce que tu penses que tu cherches en posant la question de l'amour?
Oh my my. Simplement l'amour, je pense. C'est aussi simple que c'est aussi simple et banal que ça. Je pense qu'en ce moment, quand je parle d'amour, ça me paraît triste, ça me paraît avec un gros point d'interrogation, ce qui veut dire que c'est comme si c'était entrecoupé de dons, d'interférences, puis c'était pas le sentiment était pas clair, l'énergie était pas claire, puis j'ai envie que de trouver une manière que ça devienne clair. Puis je pense que c'est un processus, je pense que ça va finir par être une accumulation de plusieurs textes, de plusieurs choses, puis on va peut-être partir d'un amour fracturé à cette quête d'amour, puis finir avec un amour qu'on complète, entière, claire, limpide, ces mots-là, que, ouais, et qui va émaner l'amour, genre.
Mais c'est une quête qui est tout à fait louable, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été portées par cette quête-là, beaucoup d'artistes qui cherchent un peu à retrouver la complétude de leur être, non? Puis c'est sur ce chemin-là qu'on va chercher les expériences qui finissent par enrichir. C'est un peu comme, tu sais, la vie, la mort, l'amour, la fin de l'amour. Des fois, j'ai l'impression qu'on cherche comme dans la blessure, mais au final, c'est en allant chercher au-delà de la blessure qu'on arrive à planter des jardins aux formes inespérées qui finissent, eux, par nous offrir le soin qu'on a besoin pour combler la blessure.
Absolument. Oui. Oui, mais souvent, je me questionne, justement, tu sais, là, on parle de blessure et tout, puis c'est ce qui fait nos œuvres et nos bonnes œuvres et ce qui nous rend authentiques, mais ça, je me tends toujours à me demander si elle est obligée d'avoir des blessures pour être créatif, s'inspirer, tout ça, tu sais. Est-ce que j'aurais pu avoir une œuvre sur l'amour sans être passée par la blessure de l'amour? Puis elle est tout de suite dans l'émanation complète de l'amour?
C'est vraiment une bonne question. Puis moi, je suis convaincue que oui. J'ai l'impression que c'est comme si on s'accrochait à la douleur ou la souffrance comme une sorte de béquille. T'sais. Je sais pas si c'est un manque de courage de vouloir embrasser l'éphémérité de l'amour, mais je pense que c'est aussi parce que la vie est pleine de violence, puis que la douleur et la blessure est juste là parce qu'on se risque à aimer, puis que ça montre qu'on est en vie. Donc, ça fait partie de... Cependant, je pense que c'est possible de choisir de se laisser porter par la gravité de la noirceur, mais de se laisser guider par la lumière.
Oui. Ah.
Puis je pense que ça dépend de où est-ce qu'on est dans notre processus de créativité. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est tout à fait légitime à certains moments de créer à partir de la blessure parce que c'est ça qui te maintient en vie.
Absolument.
Puis, tu sais que t'as un troisième texte pour nous. Est-ce que tu voudrais nous faire ton troisième texte?
Oui, puis je pense que c'est peut-être un bon timing. En fait, c'est un texte qui vient d'un livre qui s'appelle « Welcome Home, Life After Healing, Following Your Soul's Journey Home ». Puis c'est un texte qui est écrit par Sandra Ingerman, qui parle beaucoup de... Ben, d'actes de psychomagie pour se retrouver, en fait. Puis pour moi, c'est une pratique qui est beaucoup inspirée de la créativité, de l'inconscient, puis du développement de l'imaginaire et de son monde intérieur. Donc ça touche beaucoup au thème qu'on aborde depuis tantôt. Puis elle raconte un récit qu'une de ses guides qu'elle a rencontré dans son monde intérieur lui a communiqué. So, my advice to you and the people who live around you is to step back from your life. Use your imagination to envision what you would like your life to be like. Try to imagine what joy and happiness feel like. Reach back to at least one experience in which you felt happy. What situations and experiences do you think would help you regain those feelings? Trust yourself and have faith that you can create this feeling again in your life. You will have to make changes, and as you already know, all change involves taking a risk. But if you don't let fear block your sight, then you must know that you are moving in a positive direction. Life does not end with death. Death is a transition, not an end. So you will be coming back to this earth again. Start thinking now about what you want to come back to. Puis bon, il y a des croyances là-dedans qu'on n'est pas obligé de s'approprier, mais ce que j'aime là-dedans, c'est un peu comme les nouvelles données en neurosciences nous dit, le cerveau n'est pas orchestré pour nous permettre d'être heureux ou en paix. Le cerveau est orchestré pour nous permettre de survivre. Puis je pense que ça prend une discipline assez rigoureuse pour nous permettre de choisir d'être bien. De choisir d'être en paix, de choisir d'être heureux. Puis ça parle de résilience.
Ouais.
Puis ça prend de la capacité pour... T'es comme, faut que t'aies des spoons, là. Faut que t'aies de la capacité, puis un environnement qui te permet d'être assez en sécurité pour faire ces choix-là. C'est pas juste une mentalité de l'esprit, là, mettons. Cependant, je pense que lorsqu'on a envie de... Je pense que c'est très risqué d'essayer de s'inspirer de l'amour puis de créer à partir de ça, t'sais. C'est beau, c'est vulnérable, ouais. C'est comme j'ai envie de me laisser inspirer par le souffle du vent dans la plaine, ou comment est-ce que je peux recréer ce paysage vraiment beau sans tomber dans les clichés. Je pense que c'est pas overrated d'essayer de créer quelque chose qui est paisible, parce que ça aussi c'est émouvant.
Je pense que, tu sais, justement, dans le texte que tu disais, à un moment donné, ça disait de ne pas avoir peur de la mort parce qu'on revient quand même, tu sais. Puis on l'accepte beaucoup chez les plantes, par exemple, tu sais, avec même le compost et tout ça, de pas être si triste que ça, puis qu'on va, ça va se réutiliser, puis ça reste là, ou chez les arbres, tu sais, comme quoi, quand il meurt en dessous de la terre ou quand il est coupé d'un coup en dessous de la terre, ben, toute son énergie est connectée dans les autres arbres. Mais je pense qu'on doit aussi l'accepter chez les humains, puis pour nous. Puis justement, ces transitions-là, que ce soit du printemps, tu sais, on dit l'hiver, c'est un peu la mort ou tout meurt, puis le printemps, ça renaît. C'est un peu ça, cette renaissance, ce renouveau. Ouais.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense aussi que... Ben moi, je pense qu'au contraire, on doit se permettre d'être triste sans en mourir, tu sais. Puis que ça nous permet après d'être allé au fond de l'intensité de n'importe quel drame qu'on vit. C'est ça aussi qui nous permet d'être comme... La vie est vraiment courte et à la fois vraiment longue. Puis ça peut nous donner de l'espoir. Puis ça peut nous donner envie de goûter à tous les nectars, puis d'être vraiment présent, puis de célébrer ce qui est beau. Puis je pense que quand on est en déni de la mort, c'est facile de devenir très obsédé par la blessure parce que ça devient très important d'être en survie, mais moi, j'ai envie d'être plus qu'en survie. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de rêver. Parce que je sais que la vie est longue et courte en même temps.
Absolument. Mais merci. On va faire une petite pause publicitaire. Vous écoutez Sécurité au 90.3. Vous êtes avec Audio Smith, Minuit et Palina. Je vous mets une pause publicitaire, puis après, on va aller en musique et on vous revient tout de suite après pour la fin de l'émission.
CKUT is proud to present Fujita and I in concert on Sunday, May 21st at 1 p.m. at the 39th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. Sound artist Fujita builds his own instruments and is constantly searching for unusual musical settings. I, singer of the iconic bands The Boredoms and Naked City, plays everything from electronics to guitars to turntables, and of course, his own unique, legendary voice. Come to Victo on Sunday, May 21st, for the 39th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville to see and hear this incredible duo from Japan. For all the details, visit female.qc.ca.
Donc, on est en musique avec Patrick Watson pour avec la chanson « Je te laisserai des mots »
Voilà, je voulais être sûre de dire le bon titre. J'aimerais ça prendre le temps. On parle de créativité et tout ça. D'annoncer un autre spectacle parce qu'il y a Mycélium qui est en répétition cette semaine et depuis un bon moment pour un spectacle qui va se passer au Off Théa. Donc, je trouve ça important d'en parler parce que souvent la suite de la créativité avec nous-mêmes va mener jusqu'à des représentations publiques pour partager avec vous ce qu'on a envie. Donc, voilà ce que j'ai pour parler de ce magnifique spectacle que j'ai très hâte de voir, qui va être le 30 et le 31 mai de 2023, de cette année-ci. Hein. Puis, le 31, il va y avoir deux représentations. C'est un programme double avec l'inconsistance de Vachik Danse Théâtre aux Écuries, mettant en vedette Onera de Bagayès, Larry Jalbert et deux puppets. Tous les détails sur le site du Off Théa, mais j'ai un petit peu plus de détails pour vous. Donc, je vais pouvoir vous les lire dès maintenant. Donc, ça va comme suit. En 1996, l'autrice, compositrice, interprète Barbara meurt. En 1999, la rockstar Borboro est éjectée hors de la forêt enchantérotique. De la forêt enchantérotique traverse un portail vers notre dimension et entame sa misérable vie d'errance et de déchéance. Sera-t-il retrouver son chemin ou sera-t-il éternellement violenté? Violenté est ici écrit en deux mots, viol et hanté. Donc voilà, c'est un conte de science fi qui s'attarde aux péripéties sur la survivance sans procéder à la confession en convoquant les médiums, à la marionnette, au lip-sync, au conte. Puis on a Mycélium, qui est un chercheur artiste indépendant qui joue dans le cheap art de basse-cour. Et ça fait des arts vivants et de la radio, se concentrant principalement sur la magie, l'écosexualité et les abus sexuels de l'enfance. Ça a l'air chargé, ça a l'air un énorme partage de créativité. J'ai hâte de voir, j'espère que vous allez y aller. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur CKUT au 90.3, vous écoutez Audio Smut et vous êtes maintenant avec Minuit et Palina. En ce mot de fin, ça tire déjà sur sa fin, ça fait déjà presque une heure. Est-ce que tu penses que ta définition de la créativité évolue avec le temps? Est-ce qu'elle a déjà changé?
Oui, définitivement, je pense qu'elle change. Puis pour moi, c'est dur à définir la créativité, mais je pense que c'est l'acte créateur qui enlève les filtres un peu, t'es, qui est vraiment à la recherche de ce qui est au plus raw de l'expérience, de mon expérience. Ce qui me fait vivre un peu aussi, je pense. C'est intéressant, je pense, de parler de créativité sur un show qui parle de sexualité puis d'intimité, parce qu'au final, la créativité, c'est aussi notre libido, c'est notre force de vie. Puis je sais que quand moi, je me sens complètement atterrée ou que je sais plus c'est quoi le sens, au final, c'est l'acte créatif qui me permet de me sentir en vie de nouveau puis de sentir que j'ai du sang dans mes veines, que il y a quelque chose qui vaut la peine d'être raconté, puis que ça vaut la peine que je me lève pour le créer, que je peux laisser une trace, que je peux laisser une marque. Ça donne un sens. Puis toi?
Non, ça a définitivement évolué. Puis oui, je pense que la créativité, c'est ça, c'est un melting pot de tout ce qu'on ressent. Puis c'est de mettre ça dans un acte concret d'inscription et de partage. Mais ça a évolué. Je pense que au début, quand j'ai commencé à toucher ça, la créativité, déjà, je pense que les premières fois que je touchais la créativité, je savais pas que c'était de la créativité. C'était quelque chose de très naturel, qui était beaucoup dans le jeu, dans démontrer aux autres, tu sais. J'avais pas conscience j'allais puiser ça à quelque part précis. Après, quand je me suis mis à vouloir devenir un créateur de créativité, d'œuvre, on dirait que c'était très commandé. Comme, OK, qu'est-ce qu'on veut écrire? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Puis, je tends vraiment à délaisser ça, même si on est dans une industrie qui me fait à croire qu'il faut continuer de penser comme ça. Mais j'ai envie de pas mettre ma créativité dans une industrie, puis que ça soit très personnel, puis le fameux qui même me suive, c'est pas... Je réalise que c'est vraiment pour moi que j'en ai besoin, puis après, on voit où ça se cadre dans ce qui se passe, là.
Oui, puis je suis d'accord avec toi. Je pense que la créativité, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Puis il y a plein de procédés qui font en sorte qu'on s'en déconnecte, que ce soit, bon, l'école, toutes les formations, les façons d'être. Puis là, finalement, on se referme un peu sur soi, mais à la base, c'est vraiment naturel. Puis je pense que tout le monde a à gagner, à retrouver ce cœur d'enfant-là qui a juste envie de se laisser aller sans trop réfléchir aux conséquences, puis... à arrêter de se surveiller un peu. Puis je pense que pour moi, mon processus créatif, ça m'apprend à retrouver cet esprit du jeu-là, mais aussi à me demander la question qui je suis vraiment quand j'essaie d'arrêter de plaire, quand j'essaie d'arrêter de faire un bon show, qu'est-ce que j'ai vraiment à dire? Puis c'est des processus que je trouve très, très inspirants. Se laisser être sans essayer d'être qui que ce soit de spécial.
Merci. Bien, on va finir sur ces mots, puis nous, on va vous laisser en musique avec Dominique Fils-Aimé. La chanson s'appelle « Stand Tall ». Puis j'espère qu'on a ouvert votre être créatif, ou du moins qu'on vous a amené à y réfléchir et à vous questionner sur qu'est-ce qui vous inspire et comment vous avez envie de le faire. C'était Audio Smut avec Palina et Minuit sur CKUT au 90.3.
Et félicitations, Palina, pour ton premier show aux commandes.
Ah, mais là, on sait pourquoi il y avait plein de silence. Merci.
Bonne soirée, tout le monde.
J'ai vraiment puisé mon inspiration dans les émotions de l'histoire des Noirs qui ont mené à la naissance du jazz et son lien à la révolution pour créer un message plein d'amour et d'espoir. Je pense qu'elle est importante parce qu'encore aujourd'hui, l'histoire continue de s'écrire. Des moments de grande violence, de fermeture d'esprit entre humains, alors que d'après moi, on avance seulement à partir du moment où on s'unit. Qu'on apprécie, qu'on respecte la richesse de notre pluralité et qu'on est plus fort ensemble en fait. I can shine on without the light. You should live free without the hassle. You can stand tall lying down. You can stand tall lying down. I can shine on.
Bonsoir, bonjour, bienvenue à Amandla, une heure de nouvelles et d'analyse du continent africain. Ce soir, on est très fiers de vous présenter un entretien avec Catherine Coquerie-Vidrovitch, la grande historienne française du continent africain. Elle raconte une belle histoire très intéressante. Alors, restez à l'écoute d'Amandla ici à CKUT 90,3 FM.
And to start with, we're going to have another Sudan update with McGill University's Professor Khalid Mustafa Meddani. He's part of an interview process with the Middle East Political Science podcast series of the Middle East Studies of George Washington University. So stay tuned for that now.
This is the Middle East Political Science podcast. I'm Mark Lynch, and we're now joined by Khalid Mustafa Meddani. He's the author, most recently, of Black Markets and Militants, Informal Networks in the Middle East and Africa, a book that we profiled on the podcast earlier.
Bonsoir, bonjour, bienvenue à Amandla, une heure de nouvelles et d'analyse du continent africain. Ce soir, on est très fiers de vous présenter un entretien avec Catherine Coquerie-Vidrovitch, la grande historienne française du continent africain. Elle raconte une belle histoire très intéressante. Alors, restez à l'écoute d'Amandla ici à CKUT 90,3 FM.
And to start with, we're going to have another Sudan update with McGill University's Professor Khalid Mustafa Meddani. He's part of an interview process with the Middle East Political Science podcast series of the Middle East Studies of George Washington University. So stay tuned for that now.
This is the Middle East Political Science podcast. I'm Mark Lynch, and we're now joined by Khalid Mustafa Meddani. He's the author, most recently, of Black Markets and Militants, Informal Networks in the Middle East and Africa, a book that we profiled on the podcast earlier this year. Professor McGill, Khalid, thank you so much for coming back and joining us again.
Thank you so much. It's a pleasure to be here.
I wish it was under more auspicious circumstances, but of course, we're now in the second week of this rapidly escalating violence in Khartoum and in Sudan more broadly. This is a country and a topic which you've been studying your entire career, and I was hoping that you could help us to kind of understand at a deeper level what's really happening in Sudan since the uprising and the transition. And maybe a way to start is with the actual violence itself. And a lot of people, you know, you read the media accounts of this, and it seems almost like it's just a personal rivalry between Burhan and Hameti, and they're just like power hungry and attacking each other for no other reason. But your work on the military and on kind of the underlying foundations of the power of the military seems to me points in a different direction. Could you walk us through a little bit, you know, kind of, what is really going on here between these two military forces?
Well, I thank you for that question. I think the general narrative or explanation of the conflict going on right now is that it's a power play or competition between these two generals. One of them, of course, is General Abdel Fattah